7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 2 mai. Julie Pietri, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, un accord trouvé cette nuit entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Les deux parties avanceront sous la même bannière pour les législatives. On en parle justement avec votre invité à 7h50,
oui,
Léa.
Oui, il est celui qui a négocié ces accords à gauche. Il a peu dormi, j'imagine, cette nuit. Il est directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. L'accord est signé, mais sur quoi porte-t-il ? Quelles concessions ont dû faire les Insoumis et les Verts ? Où en sont les discussions avec le PS et le Parti communiste ? Manuel Bompard répond à toutes ces questions à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. Les autres titres, Julie.
Un week-end sur deux travaillés, voire plus. Au CHU de Caen, le personnel est à bout et réclame des embauches. Une grève de 24 heures. Une grève de 24 heures débute ce matin. Ne plus se maquiller, porter un foulard, cacher son visage, son corps au maximum pour se protéger des soldats russes dans les territoires occupés, puis libérer les femmes ukrainiennes, raconte comment la recherche de l'invisibilité était la seule manière pour elle de se mettre à l'abri des viols et agressions. Témoignage dans ce journal.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale aujourd'hui avec l'économiste professeur au Collège de France, Philippe Aguillon. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
La gauche se présentera-t-elle complètement unie, rassemblée pour les législatives ? Un premier accord historique a été conclu cette nuit entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Bonjour Julie Drouin.
Bonjour.
Les écologistes ont donné dans un communiqué le nom de cette nouvelle alliance.
L'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon va devenir la nouvelle Union populaire écologique et sociale, un nom symbolique du rassemblement avec les Verts et qui a suscité pas mal de débats ces derniers jours. C'est donc acté. Europe Écologie Les Verts obtient 100 circonscriptions, dont une trentaine gagnables. L'objectif des partis est de faire élire une majorité de députés afin de placer cette nouvelle union en majorité à l'Assemblée nationale, ce qui ouvrirait la voie à la nomination de Jean-Luc Mélenchon à Matignon.
Et sur le fond du programme, les écologistes se sont-ils rangés derrière les propositions de la France Insoumise ?
Disons qu'ils partagent dorénavant les mêmes idées, la hausse du SMIC à 1400 euros, le retour à la retraite à 60 ans ou encore le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Sur l'écologie, ce sont bien les termes de planification écologique qui sont mis en avant. Quant à l'Europe, point de blocage important pour les Verts, et bien là encore, ça penche en faveur de l'avenir en commun. Les Verts se disent prêts à désobéir à certaines règles européennes, notamment celles qui encouragent une politique néolibérale. Pas question en revanche d'une éventuelle sortie de la France de l'Union européenne. Les écologistes appellent dans le même temps les autres formations de gauche à rejoindre cette nouvelle union. Si les discussions aboutissent, un événement commun de lancement pourrait se tenir le 7 mai prochain.
Si la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ont trouvé un accord, ce n'est pas encore fait, donc, pour le Parti Socialiste. Un accord cette nuit, je dors, avait prévenu hier le premier secrétaire du PS, deuxième parti de France en termes d'élus locaux. Malgré la pression d'une partie des socialistes qui craignent, comme Stéphane Le Foll par exemple, de voir brader l'histoire socialiste, Olivier Faure estime que l'accord n'est plus si loin. Du côté des réticents, Patrick Kanner, président du groupe PS au Sénat, qui craint que le Parti Socialiste devienne une filiale de la France Insoumise, vous allez l'entendre, avec une inquiétude particulière sur la question européenne.
Jean-Luc Mélenchon dit, mais pendant cette mandature, nous ne sortirons pas de l'Europe, ce qui veut dire qu'éventuellement, dans une autre, on sortirait de l'Europe. Donc ça, si ce n'est pas une ligne rouge pour tous les sociodémocrates, mais aussi beaucoup de militants et de cadres d'Europe Écologie Les Verts, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, le premier secrétaire, Olivier Faure, est parti flamberge au vent, permettez-moi l'expression, sans ligne rouge, mais celle-là, pour moi, je la considère comme étant rédhibitoire, parce que, vous savez, moi j'ai adhéré il y a maintenant plusieurs dizaines d'années à un parti porté par François Mitterrand et Jacques Delors, qui considéraient l'Europe comme étant l'avenir de la France. Moi, je suis très inquiet, et j'espère qu'il y aura un sursaut chez les négociateurs du Parti Socialiste pour ne pas accepter tout et n'importe quoi. Pour être très clair, moi, je ne souhaite pas que le Parti Socialiste devienne la filiale de LFI.
Patrick Kanner avec Benjamin Fontaine. Les négociations Parti Socialiste France Insoumise doivent reprendre ce matin avec au cœur la question de la répartition des circonscriptions. Du côté du Parti Communiste, Fabien Roussel dit espérer encore un accord ambitieux. L'union de la gauche, l'union des gauches, c'était l'un des désirs exprimés par les manifestants en France hier pour le 1er mai. Contexte très politique évidemment, une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron. Mobilisation plus importante que l'an dernier, 116 000 manifestants France, selon le ministère de l'Intérieur. 210 000 à compter la CGT. Des incidents aussi, surtout à Paris. Des dizaines d'agences bancaires, un restaurant McDonald's, un magasin bio vandalisé. Affrontement entre manifestants habillés de noir et forces de l'ordre. Un sapeur-pompier qui voulait éteindre un feu de palette a été agressé par une femme qui a été arrêtée.
France Inter, 7h05, le CHU de Caen en grève aujourd'hui.
C'est le principal employeur du Calvados et son personnel n'en peut plus. Usure physique, usure mentale après 2 ans de Covid, d'autant que les effectifs manquent. Services médicaux, services administratifs sont donc appelés par tous les syndicats à cesser le travail pour 24 heures. Recruter, demande à sa direction Laurent Le Ricollet de l'UNSA. Recruter pour que nous retrouvions une vie normale.
Les gens font des week-ends supplémentaires alors qu'ils ne le veulent pas. On travaille déjà, la plupart des gens travaillent déjà un week-end sur deux. La vie de famille, c'est qu'un week-end sur deux. Et quand on vous demande de revenir sur un week-end, on vous dit sinon pensez aux patients, pensez à vos collègues. Il y a un moment, c'est plus possible. Donc oui, il manque du personnel parce que logiquement, on devrait pouvoir prendre nos repos, nos RTT, nos vacances, tout ce qu'on a le droit dans l'année et pas reporter ça ultérieurement.
Est-ce que la direction de l'établissement est l'unique responsable de ce manque de personnel ou alors c'est plus l'hôpital public ? Qui fait peur.
Je pense qu'il y a un peu l'hôpital public en général parce que c'est pas attractif par rapport à certaines professions dans le privé sont sous-payées. Et après, la direction actuellement va pas prendre spécialement quelqu'un qui a déjà de l'ancienneté à hauteur de son ancienneté. On peut pas demander à quelqu'un de s'asseoir un peu sur 100, 200 euros alors qu'il a son ancienneté. Donc oui, moi localement, pour moi, il y a un petit peu de la faute de la direction.
Laurent Le Ricollet avec Didier Charpin. La continuité des soins aux patients sera assurée aujourd'hui. Un rassemblement est prévu dans le hall. Eux, c'est à Paris qu'ils vont se rassembler à midi. Place Saint-Michel, le syndicat de policiers Alliance soutient toujours un gardien de la paix qui a été mis en examen pour homicide involontaire. Il y a 8 jours, il a tiré sur une voiture près du Pont Neuf en expliquant avoir vu le véhicule lui foncer dessus. 2 personnes sont mortes, le conducteur et un passager, un 3e homme à bord a été blessé. Pour l'UNSA Police aussi, cette décision de mise en examen est inadmissible. Alors que l'enquête démarre tout juste, les policiers non syndiqués qu'a contacté Ariane Grissel sont, eux, prudents et mesurés.
Difficile de savoir ce que l'on aurait fait à la place du collègue, disent les policiers que nous avons contactés. Tous soulignent qu'il n'y a dans certains cas que quelques secondes pour analyser la situation et la majorité insiste sur le fait que l'enquête ne fait que démarrer. Certains notent les points qui méritent d'être éclaircis, comme savoir si la patrouille était correctement positionnée pour un contrôle ou si l'arme était réglée pour tirer au coup par coup. Facile de juger assis dans son fauteuil, déplore un officier face aux interrogations sur le nombre de tirs. Des réactions donc entre solidarité et attente de la suite des investigations, loin du discours syndical dont plusieurs interlocuteurs se demandent s'il ne met pas de l'huile sur le feu. D'autant que, explique un commissaire, la qualification d'homicide volontaire n'est pas incompatible avec un usage légitime de l'arme. Il peut s'agir de tuer sciemment pour sauver une vie ou celle d'un autre. Tous ces agents tiennent à insister sur un point. Tuer quelqu'un lorsque l'on s'est engagé dans la police, disent-ils, est toujours un traumatisme.
Et une 2e enquête a été ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le calme est revenu en Guadeloupe, mais un jeune homme était toujours porté disparu hier après-midi après les fortes pluies, les orages, des intempéries qui ont causé la mort de 2 personnes.
Il est 7h08, comment avancer ensemble sur la question de l'énergie face à la Russie ? Les ministres de l'énergie Julie discute en urgence aujourd'hui à Bruxelles.
Oui, les ministres européens avec toujours cette question de la position commune à adopter face à Vladimir Poutine qui demande que ses livraisons de gaz soient payées en roubles et qui a coupé le robinet brutalement à la Pologne et à la Bulgarie, 2 pays qui justement refusaient de régler leurs notes en roubles. Crainte entre autres en Italie et en Allemagne, vous l'entendrez dans le journal de 8h. En Ukraine, à Mariupol, les autorités espèrent continuer tôt ce matin encore les évacuations de civils. Une première opération ce week-end a permis de faire sortir 100 de personnes, dont des enfants de l'usine Azovstal, jusqu'ici assiégée et pilonnée par les forces russes. Opération d'évacuation menée en coordination entre l'Ukraine, la Russie et le Comité international de la Croix-Rouge. Dans cette guerre, les femmes payent un lourd tribut, viol, agression, torture dans les villes occupées par les Russes. russes. Pour se protéger, il faut parfois disparaître, se cacher, cacher son corps. C'est ce qu'ont raconté les femmes qu'ont rencontrées près de Kiev, nos reporters Farida Noir et Fabien Gosset.
Elles ont vécu 36 jours d'occupation et la terreur, celle de devenir la proie de soldats russes. Alors à Ivankiv, les femmes de la ville ont tout fait pour s'effacer, en se terrant, en se négligeant. Certaines sont même allées plus loin en se coupant les cheveux pour être la plus invisible possible. Tetiana Zviridemko, la chef du district, est encore traumatisée.
Elle ne voulait plus être attractive, ne se maquiller plus, mettait des foulards sur la tête, comme dans les villages. Et c'est resté. Regardez, avant, je ne serais jamais allée au travail habillée comme ça. Je te l'explique. D'une femme à une femme, pour que tu comprennes. Même s'ils sont partis, nous avons toujours peur. Ça durera longtemps, tant qu'il n'y aura pas la paix. Personne ici ne s'attendait à l'arrivée des orques.
Plus au sud, à 45 km, à Borodyanka, ville qualifiée de martyr, Valentina raconte qu'ici, les habitants ont tout fait pour protéger les femmes de la ville.
Ils cherchaient des jeunes filles. On l'a su, on les a cachées. Les barbares. On les a cachées là où on a pu, dans les sous-sols. Mon amie voulait cacher sa petite fille de 17 ans dans le foin, mais les Russes ont tiré dedans. Alors elle a décidé de la cacher dans une canalisation. Quelle peur, quelle peur. Je donnerais tout dans ce monde pour qu'ils ne reviennent pas.
Depuis, Valentina prend des calmants et ne peut plus dormir la nuit. Chaque voiture qui passe, dit la vieille femme, j'ai l'impression qu'ils sont de retour.
Farida Noir, près de Kiev. Il avait été choqué quand des missiles avaient frappé Kiev, alors même qu'il était en visite dans la capitale ukrainienne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande des actes face à l'urgence climatique. Cette fois, des actes aux pays riches. Il est temps de tenir vos promesses. Lors de l'accord de Paris, les États développés s'étaient engagés à verser 100 milliards de dollars d'aide aux pays pauvres à partir de 2020. Une promesse pour l'instant non tenue.
Il est 7h12. Après 3 ans d'absence, le retour de Thierry Ardisson à la télévision.
L'émission s'appelle Hôtel du passé et le producteur va interviewer les morts. C'est le concept dans un docu-fiction d'un genre nouveau. Il emploie l'intelligence artificielle pour faire revivre des personnalités disparues. La première ce soir est consacrée à Dalida qui a disparu il y a bientôt 35 ans. Alexandra Hakoun.
Drôle de sentiment devant cette Dalida revenue d'entre les morts discuter avec Thierry Ardisson.
François Mitterrand a assisté à mes succès ?
Non.
Surtout lorsque l'animateur explique s'être retourné vers les disparus par manque de vivants intéressants.
Je trouve pas qu'Amir soit aussi intéressant que Serge Gainsbourg. En plus, ils ont peur des réseaux sociaux, donc ils disent plus rien.
Une illusion dont nous n'avons vu que de courts extraits, rendue possible grâce à l'intelligence artificielle, un hyper-trucage deepfake appelé Face Retriever, réalisé par le studio d'effets spéciaux MacGuff. Rodolphe Chabrier en est le président.
Un modèle de Face Retriever, c'est toujours un couple. D'un côté, des milliers d'images différentes de Dalida, et puis les images qu'on va tourner d'une comédienne. Elle n'a pas besoin de ressembler énormément, forcément, mais elle a besoin d'avoir ses bons mouvements, ses bonnes façons de bouger. On va entraîner ce modèle à se coller sur le visage de cette comédienne.
Une technologie surtout connue pour charrier des fake news sur Internet et les réseaux sociaux. Alors l'avoir utilisée pour la première fois en divertissement, en prime time sur le service public, celui qui affiche 37 ans de télévision au compteur, sait parfaitement qu'il va prêter le flanc à la critique.
Dans les années 50, quand la télévision s'est popularisée, on disait que les rayons émis par la télévision donnaient le cancer. Donc je crois que les nouvelles technologies, les grandes avancées font peur toujours. Mais je pense que les gens comprendront que c'est un document unique. Dalida racontée par elle-même, c'est un document pour l'histoire.
Un document autant qu'à faire. Thierry Ardisson, cabotin qui s'assume, sait faire rajeunir de 20 ans.
Mes concurrents vont pleurer leur race.
Hôtel du passé, ce sera sur France 3 à 21h ce soir.
Merci Julie Pietri. Le zoom dans 3 minutes. Aujourd'hui, la guerre vue de Russie.